Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 17h30 en temps universel du jeudi 21 mars 2019. Abdourahmane Dia et Raïssa Girondin à la présentation. Voici les titres.
L'ONU estime que plus de 200 000 personnes sont touchées par le cyclone Idai. Rien qu'au Zimbabwe, l'aide internationale s'organise.
Les députés béninois se réunissent pour tenter de sortir de l'impasse et parvenir à des législatives inclusives.
Le Conseil de sécurité de l'ONU se rend à partir de demain au Mali et au Burkina Faso. C'est pour évaluer la situation sécuritaire dans le Sahel.
Le Brexit. Les Européens se retrouvent à Bruxelles après que la première ministre Theresa May ait demandé un report de la date du divorce.
Ne ratez pas l'Angola, paralysée par une pénurie de carburant dans la Minute Éco. Et les dernières nouvelles des éliminatoires de la CAN 2019 dans la page des sports. Mais tout d'abord, le journal.
Des milliers de personnes étaient toujours bloquées dans des zones inondées jeudi en Afrique australe, attendant anxieusement les secours après le passage la semaine dernière du cyclone Idai qui a fait au moins 356 morts. On fait le point avec John Lyndon.
Au Mozambique, 15 000 personnes ont besoin d'être secourues immédiatement, a prévenu le ministre mozambicain de l'Environnement. Elles sont bloquées sur des maisons, sur des toits, a-t-il expliqué, depuis Beira, la deuxième ville du pays, dévastée par le cyclone Idai. C'est une lutte contre la montre. Chaque minute compte, a-t-il insisté, alors que des milliers d'autres personnes sont bloquées sur des zones plus élevées, sur des petites îles, et les secours peinent encore à répondre aux besoins énormes. Le Programme alimentaire mondial, qui compte venir en aide à 600 000 personnes dans la région, a commencé ses distributions de nourriture à Beira et ses alentours. L'OMS a par ailleurs prévenu que le déplacement d'un grand nombre de personnes et les inondations provoquées par le cyclone Idai augmentent significativement les risques de paludisme, de typhoïde et de choléra. Les États-Unis soutiennent ces efforts en coordination avec leurs partenaires, a fait savoir le Département d'État. Le bilan du cyclone Idai, qui a balayé en fin de semaine dernière le Mozambique, puis le Zimbabwe, a encore grimpé ce jeudi pour atteindre 356 morts, selon des sources officielles. Au moins 217 personnes sont mortes au Mozambique et 139 au Zimbabwe, deux pays où les rescapés continuaient ce jeudi d'enterrer leurs morts.
Un opposant congolais condamné pour viol sous la présidence de Joseph Kabila a été libéré ce jeudi sur décision du nouveau chef de l'État, Félix Tshisekedi. L'ex-député Eugène Diomi Dongala, condamné à 10 ans de prison pour viol sur mineur en 2014, a quitté la prison centrale de Kinshasa à la mi-journée. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle. M. Diomi a déclaré à sa sortie de prison qu'il se considérait comme un prisonnier politique.
L'épidémie de fièvre Ebola, qui a tué plus de 600 personnes dans l'est de la République démocratique du Congo, a touché pour la première fois Bunia. Un nourrisson de 6 mois est décédé dans ce chef-lieu de l'Ituri, province du nord-est de la RDC, selon le ministère de la Santé. Les parents sont en bonne santé apparente. Des investigations approfondies sont en cours afin d'identifier la source de contamination. Les autorités se félicitaient jusqu'à présent d'avoir évité la propagation du virus dans les grandes villes de l'est du pays.
Le premier ministre centrafricain a affirmé ce jeudi à Bangui que les malentendus menaçant la paix conclue avec les groupes armés avaient été aplanis avec l'annonce hier d'un accord sur un nouveau gouvernement plus inclusif. La composition de la nouvelle équipe ministérielle n'a pas encore été dévoilée publiquement.
Au Bénin, ce jeudi est un tournant crucial pour le processus électoral devant conduire aux législatives du 28 avril prochain. La plénière qui a démarré s'annonce décisive pour le scrutin. Les débats se tiennent en ce moment même au siège du Parlement. Les précisions de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
Les députés ont repris le chemin de l'hémicycle après la suspension des débats lundi dernier. À la plénière de ce jeudi 21 mars, un seul sujet sur la table, débloquer la crise électorale et parvenir à l'organisation des élections incluant toutes les sensibilités politiques. À l'ouverture des débats, le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ngouidji, a fait le point des différentes consultations qu'il a entreprises à l'endroit des diverses personnalités politiques et scientifiques à l'effet de trouver la bonne formule pour sortir de l'impasse électorale. Il a notamment insisté sur les échanges qu'il a eus avec les deux anciens chefs d'État, Nicéphore Dieudonné-Soglo et Thomas Boniayi. Selon maître Adrien Rungedji, les deux anciens chefs d'État auraient martelé leur ferme opposition à une éventuelle révision de la loi fondamentale. Face à cet état de choses et au regard de l'impératif du 15 mai 2019, date de la fin de la 7e mandature parlementaire, le président de l'institution a sollicité l'expertise de deux constitutionnalistes béninois qu'il a invités à lui produire un rapport de proposition juridique de sortie de crise dans le contexte actuel. Les 10 rapports sont attendus et devront, au dire du président de l'Assemblée nationale, être soumis à la plénière vendredi matin. Quand on sait que deux des partis politiques de l'opposition se sont retirés des négociations, la partition du Parlement reste celle de tous les espoirs. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Visite cette semaine d'une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU au Burkina Faso et au Mali. Les membres du Conseil iront s'enquérir de la menace terroriste persistante dans le Sahel. Les précisions de Lionel Gaïma.
La délégation du Conseil menée par la France, la Côte d'Ivoire et l'Allemagne est attendue vendredi au Mali et dimanche au Burkina Faso. Cette visite doit permettre de renforcer l'information des membres sur le processus de paix au Mali, la montée en puissance de la force G5 Sahel et la situation au Burkina Faso particulièrement affectée par la menace sécuritaire, a fait savoir l'ambassadeur français à l'ONU, François Delattre. Les puissances mondiales ne parviennent pas à s'entendre sur le financement de la force antiterroriste G5 Sahel constituée du Burkina, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad. Les États-Unis, qui ont financé cette force à hauteur de 111 millions de dollars, s'opposent à un financement passant par l'ONU. Washington a d'ailleurs réduit les fonds alloués aux opérations de maintien de la paix. À noter aussi que le Conseil de sécurité devra bientôt se prononcer sur l'avenir de la mission onusienne de maintien de la paix au Mali, la MINUSMA, forte de 14 000 membres. Une réunion clé sur la question est prévue le 29 mars.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les dirigeants européens ont mis le Royaume-Uni au pied du mur ce jeudi en avertissant qu'un nouveau rejet de l'accord de Brexit par les députés britanniques déboucherait sur un divorce chaotique à 8 jours de la date butoir. Les précisions de Michel Joseph.
À son arrivée au sommet européen qui réunit les dirigeants de l'UE à Bruxelles jusqu'à vendredi, le président français Emmanuel Macron a affirmé qu'un vote négatif britannique ouvrira la voie à une sortie sans accord. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a lui conditionné le report du Brexit réclamé par la première ministre Theresa May à l'adoption de l'accord qu'elle veut soumettre pour la 3e fois aux élus britanniques aussi vite que possible. Les députés britanniques ont déjà rejeté massivement à 2 reprises le traité de retrait de l'UE. La dirigeante conservatrice veut obtenir de ses homologues européens un report de 3 mois jusqu'au 30 juin de la date du divorce censé avoir lieu le 29 mars. Mais lors d'une réunion mercredi soir, les ambassadeurs des 27 ont recadré le débat. La question de la date sera une décision des chefs d'État à prendre à l'unanimité, a souligné une source européenne, et l'orientation qui s'est dessinée est de refuser la date du 30 juin et de se diriger vers une prolongation plus courte. La Commission européenne a par ailleurs prévenu qu'un report de 3 mois entraînerait de graves risques juridiques et politiques pour l'UE.
Au Venezuela, des agents du renseignement ont arrêté ce jeudi à l'aube le chef de cabinet de l'opposant Juan Guaido. Ils ont arrêté Roberto Marrero, mon chef de cabinet, en l'accusant de détenir 2 fusils et une grenade déposée intentionnellement chez lui, a dénoncé Guaido. Sur Twitter, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a condamné cette arrestation.
Au Brésil, l'ancien président Michel Temer a été arrêté dans le cadre de l'enquête anticorruption Lavage Express à Sao Paulo, selon plusieurs médias brésiliens. Michel Temer, qui avait quitté le pouvoir à la fin 2018 après 2 ans et demi de mandat, fait l'objet de diverses enquêtes pour corruption et devrait être transféré vers Rio de Janeiro.
En Nouvelle-Zélande, la première ministre a annoncé ce jeudi l'interdiction de la vente des fusils d'assaut et armes semi-automatiques en réponse à la double tuerie des mosquées de Christchurch. S'agissant des armes déjà en circulation, la chef du gouvernement a annoncé un programme de rachat pour un coût estimé entre 100 millions et 200 millions de dollars néo-zélandais. Il y aura une période d'amnistie, mais toute personne qui n'aura pas rendu ses armes à l'issue de celle-ci s'exposera à des amendes allant jusqu'à 4 000 $ néo-zélandais et 3 ans de prison. L'annonce intervient moins d'une semaine après l'attentat qui a fait 50 morts perpétrés par le suprémaciste blanc Brenton Tarrant.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
L'actualité économique en Afrique, c'est dans la Minute Éco, présentée ce soir par Nanit Talani.
L'Angola est de nouveau paralysée par une pénurie de carburant depuis plus d'une semaine, faisant bondir les prix au marché noir. Dans certains endroits, par exemple, le litre de super vendu à 1,4 euros ou 1,6 dollars dans les stations essence s'échange 3 fois plus cher au noir. La Sonangol, la compagnie pétrolière nationale, assure que la situation devrait revenir à la normale dans les prochains jours. L'Angola produit plus de 1,4 million de barils de brut par jour, juste derrière le Nigeria. Mais comme le pays n'a qu'une raffinerie, l'essentiel de son brut est raffiné à l'étranger. Le Soudan qualifie d'illégal un appel d'offres lancé par l'entreprise égyptienne Saf Valley pour l'exploitation de blocs d'exploration de pétrole et de gaz dans le triangle d'Alaïb, une zone de la mer Rouge riche en minéraux et revendiquée par les deux pays. Khartoum appelle à l'arrêt de toute activité dans cette zone frontalière, sans quoi il intenterait des actions judiciaires contre l'Égypte. Mais le Soudan se dit prêt à y mener des travaux d'exploration conjoints à condition de conclure des accords pour cela. Terminons cette minute éco avec le géant minier australien Canyon Resources qui a découvert d'importantes réserves de bauxite à très haute teneur de près de 251 millions de tonnes dans l'exploration du projet de mine Matap situé dans le nord du Cameroun. Selon Financial Africa, le Cameroun dispose d'un potentiel d'environ 700 millions de tonnes de bauxite, faisant de ce pays le deuxième plus grand gisement de bauxite en Afrique, après la Guinée-Conakry.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Éliminatoire Cannes-Égypte 2019, dernière journée cruciale pour le Gabon.
Oui, les poulains de Daniel Cousin font le déplacement du Burundi ce week-end avec un espoir de qualification samedi à Bujumbura. Les Panthères ont absolument besoin d'une victoire pour valider leur ticket et pourront compter sur leur capitaine Pierre-Emerick Aubameyang, arrivé hier à Libreville. Les précisions avec notre correspondant sur place, Ismaël Obiang-Nzé.
Il est là, scandé à gorge déployée, les dizaines de supporters de la star internationale du football gabonais. Le retour du capitaine des Panthères dans la tanière vient lever les doutes sur sa participation au match contre le Burundi. C'est tout sourire que l'attaquant d'Arsenal honore ce rendez-vous, Pierre-Emerick Aubameyang.
C'est un moment important, c'est un match important, ça fait plaisir, les gens sont là, ça donne de la force. On va aller devoir gagner ce match.
Absent lors des précédentes rencontres qui ont mis les Panthères en difficulté sur le chemin d'Égypte 2019, Aubameyang est perçu au Gabon comme l'une des pièces importantes qui manquait jusque-là pour s'assurer d'une bonne suite de compétition. Les hommes de Daniel Cousin doivent battre les hirondelles burundaises s'ils veulent être présents à cette CAN 2019. Libreville, Ismaël Obiangzé, VOA Afrique.
Situation beaucoup plus compliquée pour le Burkina Faso.
Et oui, les étalons affrontent demain à Ouagadougou les Mourabitoun de la Mauritanie. La tâche s'annonce difficile pour les Burkinabés qui devront non seulement gagner, mais aussi compter sur une défaite angolaise ou un match nul à Francistown entre le Botswana et l'Angola. Notre correspondant à Ouagadougou, Salif Kabouré, a assisté à la conférence de presse du sélectionneur Paulo Duarte. Voici son compte-rendu.
Les étalons du Burkina Faso ont le dos au mur et ils ont décidé de changer de stratégie. Paulo Duarte va jusqu'à même dire qu'il prendra des risques.
Attaquer l'adversaire pour marquer, même sous le banc, je vais courir de risques, je vais apporter normalement un banc de remplaçant, on doit avoir l'équilibre.
Alain Sibiri Traoré, Patrick Malo et Bertrand Traoré sont incertains pour cause de blessures. Mais Jonathan Petroapa reste confiant.
Ça fait quelques temps que j'enchaîne les matchs, donc je pense que voilà, je suis à mon meilleur niveau maintenant, donc je suis très heureux de pouvoir enchaîner les matchs. Maintenant, si je peux apporter un plus à l'équipe, je ferai mon possible comme je l'ai toujours fait pour l'équipe nationale et puis avoir la qualification.
Arrivé jeudi matin à Ouagadougou, l'entraîneur adjoint des Mourabitoun, Moustapha Sall, a au cours d'une conférence de presse promis de ne pas faire cadeau aux étalons de Burkina. Ouagadougou, Salif Kabouré, VOA Afrique.
C'était la page des sports avec vous, Yacouba Ouedraogo. Merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Abdourahmane Dia et Raissa Girondin, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour.
Les zones anglophones du Cameroun sont le théâtre de nouveaux enlèvements ces derniers jours. Emmanuel Ngafesson, un ancien membre du gouvernement originaire de la région du Nord-Ouest, a ainsi été enlevé au cours de la nuit de mardi à mercredi. Mercredi matin, au moins 15 étudiants ont été kidnappés sur le campus de l'université de Boya. Pour parler de cette situation sécuritaire dans la zone anglophone du Cameroun, John Lyndon a joint à Yaoundé Célestin Bedzigui, analyste politique. On l'écoute.
Je pense que la crise que nous connaissons dans la partie anglophone du Cameroun est en train de se transformer en un phénomène où le grand banditisme prend le pas sur la revendication politique. Vous vous souviendrez qu'au départ, il était question d'un mouvement sécessionniste qui très rapidement, par les méthodes, s'est transformé en mouvement terroriste au sens où les populations se sont vues infliger un traitement qui n'allait pas du tout dans le sens de la préservation ni de la sécurité de leurs intérêts. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est sorti complètement de la revendication politique. On entre dans des actes comme celui que vous évoquez, c'est-à-dire des enlèvements et qui relèvent du pur banditisme.
Alors, comment expliquer, du point de vue des séparatistes, qu'on s'attaque désormais aux civils?
Tout simplement parce que aujourd'hui, ces enlèvements donnent lieu à des demandes de paiement de rançon. On est loin désormais de la revendication politique. On est, comme je l'ai dit, c'est vraiment une manifestation de criminalité. Là où on l'attendait pas du tout, parce que lorsqu'on s'attaque non seulement aux personnalités, mais également lorsque on commet des meurtres de civils tout simplement parce qu'on leur prête telle ou telle posture ou telle appartenance politique et en donnant cela un caractère de revanche, on est loin désormais du champ politique. Ce qui se passe désormais dans le nord-ouest du Cameroun n'a rien à voir avec la revendication politique, d'autant plus qu'il n'y a même pas une figure politique qui formule une revendication articulée qui puisse être prise en compte, qui peut être considérée comme un interlocuteur. Il s'agit de groupes autonomes. On ne sait de qui ils relèvent. On ne sait qui est leur porte-parole.
Quelle est la réponse du gouvernement face à ces agissements?
La réponse, elle est tout trouvée. Le problème a cessé d'être un problème politique pour devenir un problème sécuritaire. Et les réponses aux problèmes sécuritaires, elles sont tout trouvées. C'est-à-dire, c'est un renforcement du dispositif sécuritaire dans la région qui se traduit malheureusement par une intensification de la militarisation de la zone. Nous autres, nous proposons qu'il y ait une espèce de grand dialogue, et un grand dialogue national, comme nous avons pensé il y a déjà quelques années, une vingtaine d'années, à partir duquel ceux-là qui prennent des chemins qui ne sont plus des chemins politiques seront mis en minorité et que le champ politique reprendra le dessus et que l'apaisement et la paix reviendront dans cette région. En attendant, on est bien obligé de recourir à des méthodes de renforcement de la sécurité dans la région.
Depuis Yaoundé, c'était l'analyste politique Célestin Bedzigui.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Niger, le bras de fer qui oppose les enseignants des universités publiques au gouvernement se poursuit. Il s'est même durci ces dernières semaines avec les multiples arrêts de travail des enseignants à l'appel de leurs syndicats. C'est la question de la gouvernance de ces institutions qui divise les deux parties. Les principales victimes sont les étudiants. Reportage à Niamey de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
C'est l'adoption en début du mois de mars par le gouvernement d'un projet de décret modifiant le régime des établissements publics à caractère scientifique qui a radicalisé la lutte du syndicat des enseignants-chercheurs. La modification porte notamment sur l'abandon du système d'élection des recteurs et vice-recteurs des universités publiques pour y procéder désormais par nomination. Yehuza Sadissou, ministre des enseignements supérieurs.
C'est vrai, nos universités sont autonomes, mais malgré cette autonomie, le gouvernement a le devoir de mettre en œuvre la réforme qu'il pense être la meilleure pour le devenir de nos universités, pour la promotion de l'enseignement supérieur.
C'est l'option du gouvernement de revoir les dispositions des textes pour désormais nommer les recteurs par décret pris en Conseil des ministres. Donc, il n'y aura plus d'élection. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire.
Depuis cette décision, plus aucun cours n'a lieu dans les universités publiques du pays, aux grandes dames des étudiants.
À chaque fois que les anciens cherchants font l'air grave, c'est nous qui devons récolter les faux cassiers à chaque fois. En tout cas, l'État doit revoir comment elle s'appelle cette situation-là.
Ça n'avance pas. Aujourd'hui, nous sommes dans la troisième semaine des grèves des anciens chercheurs et chercheurs. Nous lançons un appel auprès du gouvernement ou bien une demande au gouvernement d'appeler les SNECS, c'est-à-dire les syndicats des anciens chercheurs et chercheurs, pour puissent avoir des solutions.
Ça fait des mois qu'on ne fait pas cours ici. Donc cela touche effectivement les étudiants, les fils des pauvres que nous sommes.
Autant le gouvernement se dit ferme sur sa décision, autant le syndicat des enseignants-chercheurs rejette en bloc le système de nomination, et ce, pour diverses raisons. Nabala Adré, secrétaire général du syndicat des enseignants-chercheurs du Niger.
Pourquoi on veut le maintien du système électif du recteur? C'est pour des raisons scientifiques et des raisons administratives. Nous voulons être convaincus que ce recteur maîtrise les questions administratives, mais de façon universelle, il maîtrise les questions scientifiques. Quels sont ses liens scientifiques avec le monde extérieur? Ça, on a besoin de ça pour s'assurer que ce recteur va accompagner l'ensemble des anciens chercheurs qui ont une carrière universitaire. Mais si on parachute par nomination un recteur, c'est l'ensemble de ses avantages, de ses conditions qu'on va liquider. Et là, c'est un recteur inconnu, un recteur politique qu'on va nous amener. Ils ne sont pas prêts à accepter cela.
Abdullah Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
En Côte d'Ivoire, le député de Yopougon, une figure du PDCI, Zied Aouda Koulibaly, a constitué ce mercredi un nouveau mouvement à Toun pour éviter une seconde crise post-électorale, selon lui. Proche du vice-président ivoirien Daniel Kablan Duncan, ce mouvement envisage une caravane de la réconciliation qui va parcourir le pays. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint à Abidjan un journaliste indépendant et analyste politique, Ferro Bali.
Ce NM mouvement m'apparaît comme une arnaque politique, simplement pour faire un chantage à la peur, ou alors pour essayer de remuer le couteau dans la plaie par rapport aux élections de 2010. Monsieur Zié, qui est député à l'Assemblée nationale, a quitté officiellement le PDCI pour adhérer au mouvement de Monsieur Kablan Duncan. Milite au sein du RHDP Parti Unifié. Donc Monsieur Zié ne peut pas créer un mouvement dit de réconciliation. Il devient donc un acteur de la crise au PDCI-RDA.
Mais le principe même de la réconciliation, c'est une bonne chose.
Oui, on ne peut pas dire non et tourner le dos à une réconciliation. Quand un divorce est prononcé entre deux partenaires, ce n'est pas en tampant le tam-tam qu'on amène les partenaires à reprendre la vie conjugale rompue. Leurs réactions, leurs agissements sont destinés plutôt à exacerber les clivages entre le PDCI et le RHDP unifié.
Donc pour vous, c'est pour affaiblir davantage le PDCI?
C'est l'objectif final. Parce que je me dis, au PDCI, RDA et dans les partis ivoiriens en général, les mouvements sont interdits. M. Adjoumani a créé son mouvement sur les traces du président Fouboigny. Son mouvement a été déclaré interdit. Cela n'a pas donné leçon au vice-président Kablan Duncan, qui a créé lui aussi un mouvement qui se fait appeler PDCI Renaissance. Et ce mouvement fait des campagnes à un bureau, parcourt le pays, etc., pour mobiliser les militants et les Ivoiriens en général à adhérer au RHDP unifié. Dans ce cas, le travail qui est en train d'être entrepris n'est pas d'aider le PDCI, mais c'est plutôt de le fragiliser, ou alors, comme le disait Guénie Kobinan, qui était secrétaire général du RDA, de réduire le PDCI à l'état de vestige au nord et de relique au sud.
Dernièrement, Guillaume Soro a aussi annoncé un mouvement politique. Est-ce que vous pensez que c'est dans la même continuité?
2020 annonce ces débats contradictoires. Pour moi, cela participe du dynamisme politique ivoirien. Soro Guillaume a quitté effectivement également aussi le RDR, s'est rapproché du président Henri Konan Bédier et a annoncé un mouvement politique qu'on appelait le Conseil politique. Pour moi, cela participe du dynamisme politique ivoirien. Et cela ne devrait faire peur à personne. Ce qui s'est déroulé en Côte d'Ivoire en 2010, c'est le non-respect des décisions de nos institutions qui conduisent à des situations déplorables comme celles que nous avons vécues. Donc, il ne suffit pas de faire des campagnes dans le souci d'obtenir le parti unique, comme sous le feu Boigny, ce qui n'est plus possible.
C'était le journaliste Ferry Bali, joint à Abidjan.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Le Gabon veut réduire ses importations de riz estimées à 70 000 tonnes par an. Le Premier ministre Julien Nguoké-Bekele, qui s'est dit favorable à la production locale, a visité un champ d'expérimentation rizicole en banlieue est de Libreville. Le reportage de notre correspondant Ismaël Obiangze.
Situé à une douzaine de kilomètres de Libreville, le projet rizicole du Gabon est porté par un groupe d'experts du Centre de la recherche scientifique et technologique. Yolande Tsimbou, attachée de recherche dans les sciences alimentaires, s'occupe de la partie post-récolte du projet.
Après la récolte, on a différentes étapes. On doit récolter, sécher le panier dans les panicules, les sécher dans leurs pieds, ensuite battre et encore les sécher avant de passer au décortiquage, au blanchiment.
Sur le site, la moisson est prometteuse et témoigne de la fertilité du sol. L'expérience est visiblement réussie après plusieurs ratés par le passé. Yonel Mokombi, chercheuse au CNRS, Centre de la recherche scientifique et technologique, est initiatrice du projet rizicole du Gabon.
J'ai fait la production rizicole avec l'ONADER à Bikélé, on a eu des résultats. J'ai fait la production, le riz a été vendu, il n'y a aucun problème. Tout ce qu'on veut, c'est les infrastructures, les moyens et puis le renforcement des capacités. Que les gens se forment dans les métiers rizicoles et puis les choses vont être lancées. Lorsqu'on est resté longtemps dans des pays où, avec peu de moyens, ils arrivent à rentrer dans l'autosuffisance en riz.
Le projet de Yonel Mokombi a de réelles chances d'être soutenu par l'État. Promesse du Premier ministre gabonais en visite sur ce champ d'expérimentation. Selon Julien Corbecalé, le gouvernement travaille à limiter les importations d'aliments de base.
Vous savez que notre pays importe pour près de 70 000 tonnes de riz par an. Et c'est devenu un aliment de base des Gabonais. Et je pense que, et nous le pensons, le gouvernement, le chef de l'État, que nous avons la capacité d'infléchir cette tendance en encourageant la production nationale de riz. Et je pense que ce que cette jeune compatriote fait aujourd'hui est un bon signal. Nous allons l'encourager, nous allons la pousser pour que le ministère de l'Agriculture dispose toute saison des semences de qualité et qu'on puisse les mettre à disposition de nos compatriotes qui veulent se lancer dans la production rizicole.
Voilà. Libreville, Ismaël Obiangze, VOA Afrique.
Morgane Guiriec, en votre compagnie, cette semaine dans Washington Forum, le point sur la situation politique en RDC. L'ex-président Kabila a cédé le pouvoir à l'opposant Félix Tshisekedi, mais il conserve la majorité à l'Assemblée. Sa coalition rafle 80 sièges de sénateurs. Des résultats qui laissent bon nombre de Congolais perplexes, car la coalition du président Tshisekedi n'a obtenu que 3 sièges. Les autorités de Kinshasa ont annoncé la suspension de l'installation des sénateurs élus, le report de l'élection des gouverneurs et l'ouverture d'une enquête sur des soupçons de corruption. Quelle sera la portée de ces mesures? Comment comprendre la victoire du FCC? Quel impact sur la stabilité du pays? On en discute dans ce Washington Forum.
Et c'est la fin de cette édition. À la mise en onde de Sims Lumami, à la console Thomas Blondet. Présentation Abdourahman Dia et Raissa Gironde.
Restez connectés sur notre page Facebook et sur notre site internet voafrique.com pour plus d'actualités. Excellente suite de programme.
Afrique.